Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Née en 1623 et morte à l'âge de 84 ans, un record pour l'époque, Ninon de l'Enclos a réellement vécu le plus grand des siècles, j'ai nommé celui de Louis XIV. Elle eut une vie sentimentale tumultueuse, des aventures innombrables, mais à la cinquantaine, elle prit sa retraite amoureuse pour ouvrir un salon littéraire et philosophique passionnant où se pressait un cercle d'amis sûrs et brillants qui lui vouaient une profonde estime. Ninon fut aimée de tout son siècle. D'ailleurs, 400 ans après sa mort, elle a encore des admirateurs et des amoureux. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous emmène à la rencontre de Ninon de l'Enclos, Notre-Dame des Amours, une femme brillante autant que jolie, qui, ayant constaté que les hommes s'étaient en ce monde réservé des qualités essentielles, avait décidé d'être un homme. Madame de l'Enclos mère se cantonnait dans la lecture du traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales et s'évertuait à convaincre sa fille qu'elle ne trouverait le salut que dans la prière. Véritable grenouille de bénitier, elle tenait à ce que les épaules de sa nane ou de sa nanny fussent couvertes d'un quadruple mouchoir de colle et ses cheveux d'une résille de coton. Son mari estimait au contraire que c'était
faire injure au Créateur de ne laisser sa Ninon mettre en valeur les charmes naturels dont il l'avait comblée.
Vous l'aurez compris, Henri de l'Enclos, le père de Ninon, était loin d'être aussi pudibond que son épouse. Sœur de la Douardière, issue d'une petite mais authentique noblesse, c'est un homme d'armes, sachant assez bien les manier et se louant au plus offrant. Un genre de capitaine fracasse avant l'heure, la formule est de Michel de Decker. Il vint à ce métier dans les premières années du siècle, guerroya pendant quelque temps, eut force duel. La paix revenue, après avoir été attaché au duc d'Elbeuf, il fut au moment où naissait sa fille, écuyer d'Épinay de Saint-Luc, dont le père avait été l'un des écuyers d'Henri III. Quand il ne se battait pas, ce viveur, ce ripailleur, jouait merveilleusement du luth et était un grand lecteur des essais de Montaigne. Il ne voulait surtout pas que sa fille fût bigote comme sa mère et il travaillait à écarter de sa jeune intelligence toute idée préconçue. Il l'incitait à douter de tout et principalement des vérités révélées par la religion. L'Enclos avait un contentieux avec un certain Chaban, gentilhomme de la chambre du roi, sorte de matamor prétentieux. Vers 1632, il rencontre ce Chaban alors que celui-ci descend de son carrosse. Sans même lui donner le temps de se mettre en garde, il lui passe son épée à travers le corps et l'étend sur le pavé. Or, Richelieu n'était pas tendre pour les duellistes, a fortiori quand la rencontre avait tout l'air d'un assassinat. Alors Henri de l'Enclos, qui ne tenait pas du tout à poser sa tête sur le billot, jugea prudent de prendre le large en abandonnant femme et enfant. Son exil durera 15 ans. À son retour en 1647, il eut sans doute bien du mal à reconnaître sa fille Ninon dans la ravissante jeune femme qu'il retrouva à Paris. Avant de mourir, il lui donna ce conseil éminemment épicurien.
De ne jamais devenir scrupuleuse sur le nombre, mais seulement sur le choix de ses plaisirs.
Ninon tenait beaucoup de son père. Elle avait hérité son don pour la musique. Il fut d'ailleurs son premier professeur. Elle jouait avec goût du luth et du clavecin, et avait aussi un joli filet de voix. Par ailleurs, elle dansait fort bien la sarabande. D'intelligence très vive, elle aimait apprendre. Elle apprit notamment l'espagnol et l'italien. Elle avait la répartie prompte, le caractère espiègle. Comme son père, elle connaissait des passages entiers des essais de Montaigne. Alors autant elle s'ennuie à la messe, ne suivant les offices qu'avec répugnance et s'en échappant aussi souvent que possible aux grandes dames de sa mère, autant elle aime se promener du côté de la place royale, centre très animé du Paris élégant. On s'y promène, les amoureux s'y donnent rendez-vous. Tous ses dons, joints à son esprit et à son enjouement naturel, lui valent bientôt galants et hommages. Elle évite de peu le couvent à vie et ne se marie pas. Bon, d'ailleurs, qui aurait voulu de la fille d'un banni, qui plus est, sans dot. comment était Ninon physiquement ? Sur ce point, il faut s'en tenir au jugement de ses contemporains, à commencer par celui de Talmant des Réaux, qu'il a bien connu. Voilà ce qu'il dit d'elle dans ses historiettes.
Elle n'a jamais eu beaucoup de beauté, mais elle eut toujours beaucoup d'agrément.
Un des historiographes de Ninon, un certain Brett, assure qu'elle avait
un teint éblouissant et de grands yeux noirs. Ses dents, sa bouche et son sourire étaient admirables. Elle avait une voix charmeuse, de beaux bras, de belles mains et surtout une grâce infinie dans ses gestes.
Madame de Scudéry, qui fut une grande amie de Ninon toute sa vie, puisqu'elle mourut à 94 ans en 1701. Elle fut dans sa jeunesse la reine des précieuses et on l'appelait Sappho. Elle a portraituré Ninon dans Clélie sous le nom de Clarisse, s'exprimant ainsi. Clarisse est de fort belle taille et d'une grandeur agréable, capable de plaire à tout le monde par un certain naturel qui lui donne bonne grâce. Elle a les cheveux du plus beau châtain que j'ai jamais vu, le visage rond, le teint vif, la bouche agréable, les lèvres fort incarnates, une petite fosse au menton, les yeux noirs brillants, pleins de feu, souriants, et la physionomie fine, enjouée et fort spirituelle. On ne connaît que trois portraits authentiques peints du vivant de Ninon. Elle est alors dans le bel épanouissement de la trentaine. Le visage est plein et régulier, avec de larges yeux noirs, un nez assez gros, une bouche attirante aux lèvres sensuelles. La poitrine est ferme et belle, elle a été chantée d'ailleurs à maintes reprises. Les mains sont longues et fines. L'ensemble est d'une femme robuste, pleine de vie et de saveur. De tous ces témoignages et ces portraits, on peut dire que Ninon n'était pas une beauté classique, mais elle possédait un charme infini, prenant, fait de mille choses qui s'harmonisaient à souhait. La tonalité de la voix, l'éclat du regard, le sourire, la grâce de ses gestes, qu'un portrait rend toujours imparfaitement. En tout cas, chacun subit son charme, tant il est vrai que les femmes les plus aimées sont loin d'être toujours les plus jolies. Ninon comprend vite qu'en ce bas monde, les hommes se sont taillés la part du lion. Elle aurait souhaité être un homme pour en avoir les privilèges. « Mon Dieu, disait-elle parfois, faites de moi un honnête homme, mais n'en faites jamais une honnête femme. » Ninon aurait eu son premier amant à 16 ans, après quoi elle les a collectionnés. Talmant de Réaux, la plus mauvaise langue de tout Paris sous Louis XIII, prétend que ce premier amant fut un capitaine de chevaux légers nommé Saint-Étienne. « C'est lui, écrit-il, qui aurait ensuite présenté Ninon à Richelieu. » En fait, c'est plus vraisemblablement Marion Delorme qui joua les entremetteuses entre Ninon et le cardinal. Marion Delorme, que son éclatante beauté avait rendue célèbre, habitait au 11 de la place des Vosges actuelle. Ninon était donc sa voisine. De 7 ans plus âgée qu'elle, Marion était toujours entourée d'une cour d'adorateurs. Elle avait été lancée, 7 ans auparavant, par l'une des figures des libertins du Marais, Jean Vallée, seigneur des barreaux, dit aussi l'illustre débauché. Après lui, elle avait eu une liaison avec Richelieu, puis avec 5 Mars, favori de Louis XIII. Donc si quelqu'un présenta Ninon au cardinal, ce fut certainement elle qui avait pris Ninon sous sa protection et non pas de Saint-Étienne, comme le prétend Talmant de Réaux.
Ninon, vêtue en page, aurait rendu 2 visites à Richelieu, qui, pour la circonstance, aurait échangé la pourpre contre un habit brodé et des bottes.
Bon, cela fait probablement partie des innombrables calomnies déversées à ce moment-là sur le grand cardinal. Quoi qu'il en soit, après Saint-Étienne, et peut-être Richelieu, Ninon ne tarda pas à distinguer le jeune chevalier Raré, dont la mère était gouvernante des enfants de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Les folles années commençaient. Ninon, très adroite, savait s'effacer devant l'éclat de Marion, qui, si elle était physiquement plus belle, était beaucoup moins intelligente. La chambre de Marion Delorme, c'est le nom que l'on donne alors aux salons de conversation, on les appelle aussi réduits, alcôves, salons. Eh bien, la chambre de Marion Delorme était un bon poste d'observation où l'on pouvait faire son choix parmi la jeunesse dorée et un lieu aux relations utiles ou agréables. Marion et Ninon furent tout d'abord d'inséparables amis. Mais Ninon, dans la fougue de ses 22 ans, fit l'erreur de jeter les yeux sur Gaspard IV de Coligny, marquis d'Andelot, qui descendait tout droit de l'amiral de Coligny, victime de la Saint-Barthélemy.
Courageux, très généreux, bien fait de sa personne et toujours mis avec recherche, il semblait qu'aucune femme ne pût lui résister.
Or, il soupirait en vain pour Marion qui le dédaignait. Ninon lui écrivit alors une déclaration passionnée. Mais Marion, de manière fort illogique, se montra furieuse de voir son amie prendre un amant qu'elle avait pourtant elle-même dédaigné. Ce fut une bonne leçon pour Ninon. Désormais, elle ne mêlerait plus le cœur avec le reste. Elle sut d'ailleurs se consoler bien vite avec un sémillant gascon, Miossens, puis avec le duc d'Enghien, futur grand Condé, quand il était encore jeune et couvert de gloire. D'un regard, il lui avait plu. Les regards sont les premiers billets doux des amants, disait-elle. Cependant, cet homme de guerre, en dépit de sa prestance et de son éclat, n'était qu'un médiocre amant. Brillant sur les champs de bataille, il n'était au lit qu'un piètre combattant. Ninon ne cacha guère sa déconvenue car elle aimait l'amour, ses sens étaient exigeants. Et elle fut d'autant plus déçue que, sachant le duc très velu, elle avait déduit qu'il pouvait battre les records amoureux en vertu de l'adage latin « pilosus aut fortis aut libidinus », ce qui veut dire « l'homme poilu est fort ou libidineux ». Pour Ninon, Condé fut donc une déception, mais il est vrai qu'il avait coutume de préférer les éphèbes. Dieu merci, Madame de Lenclos n'était plus là pour voir tout ça. Elle meurt en 1643. À la mort de sa mère, d'ailleurs, Ninon s'était retirée quelque temps dans un couvent. Mais elle avait trop de tempérament et pas assez de foi pour s'enfermer dans un cloître et sa retraite fut de courte durée. Elle commençait à être connue dans le monde de la galanterie et elle manquait à Paris. C'est environ à cette époque que se présenta le premier payeur sérieux, Jean Coulon, conseiller au Parlement. Il était riche et cherchait donc une maîtresse qui lui fît honneur. C'est ainsi qu'il jeta son dévolu sur Ninon, alors dans tout l'éclat de ses 20 ans. La chronique scandaleuse de Talmant des Réaux affirme qu'il conclut le marché avec la belle pour 500 livres par mois, ce qui constituait à l'époque un assez joli revenu. Coulon fut le premier à entrer dans cette catégorie des payeurs qui étaient nécessaires à Ninon, mais ne tenaient jamais une grande place dans sa vie.
Ninon classait les hommes autour d'elle en différentes catégories. Elle avait obtenu sa liberté masculine grâce à quelques payeurs. Le mot est de Ninon elle-même. Ces hommes étaient en effet disposés à la couvrir d'or pour obtenir le droit de dégrafer son corset. Ils payaient, certes, mais elle l'était rarement de retour. Quand elle se refusait à eux, ils devenaient des martyrs. Si le hasard faisait pourtant qu'elle se mettait à éprouver quelques sentiments, ils passaient au grade de favoris. Les plus heureux, ceux qui n'avaient même pas à bourse déliée, étaient rangés dans la catégorie des caprices.
Après Coulon, ce fut François d'Amboise, comte d'Aubijou, grand seigneur, lieutenant du roi en Languedoc, gouverneur de Montpellier.
C'était un épicurien cultivé, qui faisait souvent retraite dans une merveilleuse maison de campagne, avec quelques amis au milieu de ses livres et de ses objets d'art. S'il ne se privait pas de maîtresse, il les méprisait affectueusement. Il appartenait à cette catégorie de misogynes qui professe que payer les femmes et ne les avoir que lorsque cela plaît est encore ce qui coûte le moins cher. Mais avec Ninon, il trouva à qui parler.
Leurs relations, brèves, furent empreintes de la plus grande courtoisie. Suivit Fourreau, homme très généreux et très bienfaisant, qui aimait dévotement Ninon et s'était institué son ministre de la charité. Ninon le chargeait de distribuer les secours et le bonhomme ajoutait bien souvent de sa poche. Puis, ce furent Moreau, fils d'un lieutenant de la prévôté de Paris, Rincy, conseiller du roi, Picot, maître de la musique du roi, célèbre pour sa passion du jeu, Miton, Delbène et bien d'autres, tous libertins, au sens où on l'entendait alors. Des amants, Ninon de Lenclos en eut des ribambelles, impossible d'en dresser la liste. Elle n'avait pas encore 25 ans qu'elle annonçait sans vergogne « J'en suis à mon 20e caprice », mais ils furent parmi les plus illustres de ses contemporains. Après le grand Condé, François de la Rochefoucauld, ce fut le glorieux mathématicien-astronome Huygens qui fit sur elle ce quatrain.
« Elle a 5 instruments dont je suis amoureux. Les 2 premiers, ses mains. les deux autres, ses yeux. Pour le plus beau de tous, le cinquième qui reste, il faut être galant et leste.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit, Au cœur de l'histoire, consacré à Ninon de l'Enclos.